put a spell on you.
Votre attention à tous. Aussitôt que le sas sera verrouillé, silence. Jacques et Yula, si quelque chose cloche, prévenez-moi par télépathie.
I want you to get up right now and go to the window, open it and stick your head out and yell, I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore.
Comme ça, Money, tu penses que ton stuff c'est la grosse affaire?
Laisse-moi te dire une chose, qu'avec ce stuff-là, les petits dealers sont mieux de prendre leur trou.
C'est cet inconscient-là qui est le plus dangereux.
Nice shooting, sir. What's your name?
Murphy.
Je suis un fort! Je suis une ordure! Ah! Je suis pourri! Je suis lépreux!
I'll put a spell on you. Because you're mad.
Salut tout le monde, ici Jean-Michel Bertrand, mais vous écoutez Le 7e Antiquaire, votre émission de cinéma aux proportions cosmiques. Ben aujourd'hui, je vais commencer avec un mea culpa. En fait, j'ai déjà enregistré cet épisode la semaine dernière. Et comment est-ce que je peux expliquer ça? J'en étais pas super satisfait. J'ai l'impression que je m'en allais un peu à gauche, à droite, et ainsi de suite. Je faisais ma présentation pour la nouvelle saison. Puis c'était pas parfait, c'était pas idéal. Donc, pour les gens qui l'auraient écouté la semaine dernière, acceptez mes excuses, j'espère. Et je vous promets que je vais faire mieux, en fait, parce que j'ai vraiment l'impression que le sujet mérite mieux que moi dans mon espèce de confusion. Donc, je commence immédiatement en vous disant, bon, en fait, bonjour, bienvenue à tout le monde. Ça n'arrive jamais que je réenregistre un épisode. Donc, pour les nouvelles auditrices, nouveaux auditeurs, n'ayez pas trop peur. Pour les personnes qui attendaient l'épisode à cause de ma déclaration la semaine dernière, ben, merci de votre patience. Et pour les gens qui embarquent avec nous pour la session qui s'en vient, ben, vous tombez dans un très bon moment, puisque on vient de terminer un cycle qui n'est pas nécessairement terminé, puisqu'on va refaire un autre épisode avec Marc Lamotte, portant sur les adaptations littéraires au cinéma. Donc, on a réussi à faire beaucoup de millages sur ce thème-là, regarder des œuvres importantes ou des auteurs important, et voir comment ils ont été adaptés, comment ils ont été travaillés au cinéma. Et maintenant, avec cette nouvelle session, j'ai décidé de me relancer dans une autre thématique. Cette fois-ci, ce que je veux faire, c'est regarder les premiers films de réalisateurs qui ont eu une carrière assez importante pour voir un peu c'était quoi leur premier projet, c'était quoi le truc qui, pour certains, diront que c'est comme leur ébauche, mais qui m'intéresse dans l'optique que c'est un peu la synthèse de leur travail, tu sais, de dire la première œuvre, c'est l'œuvre de jeunesse, c'est laquelle. C'est le film dans lequel on dépose tout nos aspirations, puis on dit c'est ça, c'est notre grande carte de visite. Je veux un peu voir qu'est-ce que c'est cette dynamique-là dans les premiers films. Donc, on va aller voir des films comme Blue Collar, Killer of Sheep, Repo Man, Seul contre tous, The Hired Hand, Violent Cop et Throw Mom Off the Train. Bon, évidemment, il va y avoir d'autres trucs. Pendant ce temps-là, je sais qu'il y avait des films comme When You Were Born que je voulais aborder. Je voulais aussi travailler sur Philadelphia Story et évidemment This Girl Friday, que c'est vraiment les films qui me pressent le plus, si je peux dire. Bon, évidemment, il va y avoir des invités. On va faire un peu du à gauche à droite avec ça. On va avoir des émissions spéciales. Mais fondamentalement, attendez-vous à ceci jusqu'à la fin de l'année, des premières réalisations. Et pour la toute première, je pense que vous êtes tous et toutes un peu curieux par rapport à cette idée-là de réenregistrer une émission parce qu'on veut en parler comme il faut. Aujourd'hui, on parle de Martin Brest. Et Martin Brest, le thème de l'émission, ou le sous-titre de l'émission que je pourrais donner, c'est un peu Martin Brest et la tragédie de l'oubli. Puisque la majorité des gens cinéphiles de mon âge connaissent Martin Brest peut-être pour Scent of a Woman, qui est un film extrêmement populaire, qui a été très, très, très populaire à sa sortie, avec Al Pacino. Il y a aussi quelques personnes qui seraient capables de le reconnaître comme étant le réalisateur de Meet Joe Black, avec Brad Pitt, où Brad Pitt interprète la mort, un remake de Death Takes a Holiday. Mais la raison numéro un pourquoi on se rappelle de Martin Brest actuellement, c'est à cause de Gigli, qui est le film qui a, en fait, c'est le plus important flop de sa carrière, mais aussi c'est le film qui a un peu provoqué sa disparition. Et c'est ici où la tragédie de Loubi devient très importante, à mon avis. C'est que, bon, on le sait, c'est un budget de 75 millions de dollars pour une production romantique entre Jennifer Lopez et Ben Affleck, qui a essentiellement seulement soutiré 7 millions de dollars. Ça, c'est des chiffres à vérifier avec Julien et Box Office. Mais tout ce qu'on sait, c'est que suite à Gigli en 2003, Martin Brest ne sera plus jamais vu en public. Plusieurs personnes ont comme une théorie. Enfin, on dit qu'il aurait déménagé à New York et qu'il se serait retiré de la vie publique suite à ce désastre. Puis c'est un peu terrible parce que Martin Brest, comme vous allez voir avec l'émission aujourd'hui, est un réalisateur, à mon avis, extrêmement influent et extrêmement intéressant dans ses premiers films. Puis bon, ça, c'est quand même aussi un trope assez facile, là, je peux toujours dire... Oui, mais vous devez voir ses œuvres de jeunesse et vous allez tout comprendre. Mais non, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de tragique dans le fait que Martin Brest a été torpillé par ce désastre cinématographique et que toute la mémoire de son travail sera inévitablement teintée par ce méga flop. Mais on ne peut pas ignorer, on ne peut pas oublier le fait que c'est ça, il a fait Central Woman, il a fait Mitchell Black. C'est aussi le réalisateur de donc Beverly Hills Cop en 1984, qui, pour la petite histoire, en fait, il aurait décidé de réaliser le film avec un coin flip, donc il serait retrouvé en studio et il aurait tourné un dollar sur son pouce pour voir s'il le réalisait ou non. Un des films qui a ici Eddie Murphy dans ses sphères d'immense popularité. Et ses trois premiers films sont, à mon avis, extrêmement intéressants et importants. Fait que je vais commencer immédiatement avec un truc qu'on ne connaît pas essentiellement et qui n'a pas... en fait, j'ai vraiment essayé d'essayer de le trouver. Donc, un film qui s'appelle « Hot Dogs for Gauguin ». Donc, comme je vous dis, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas du tout pu regarder ce court-métrage de 22 minutes. Mais les trucs qui sont dits par rapport à ce film-là sur le web sont extrêmement alléchante. En fait, c'est un film qui met en vedette Danny DeVito et Rhea Perlman, qui sont ou ont été un couple très, très, très longtemps, possiblement encore ensemble, et William Duff Griffin. C'est un film de 22 minutes, comme je vous disais, qui a été fait par Martin Brest lorsqu'il était étudiant au NYU. Un étudiant extrêmement prometteur aussi. C'est là où il y a quelque chose d'intéressant à aller faire la généalogie du réalisateur, puisqu'on n'avait que des éloges par rapport à son travail lorsqu'il était au NYU. Et il a fait ce petit film, Hot Dogs for Gauguin, qui est un titre extraordinaire, qui raconte l'histoire essentiellement d'un photographe obsédé par le désastre du Hindenburg, donc le grand dirigeable qui a explosé. Cette photographie, en fait, il est obsédé par cette capture extrêmement célèbre du dirigeable qui s'effondre en flammes et décide de... décide de mettre en scène ou de faire un coup d'État essentiellement sur la Statue de la Liberté pour la faire exploser, pour la photographier et avoir à son crédit une photo aussi iconique que celle du désastre du Hindenburg de 1937. Donc, si vous pouvez vous imaginer, et moi je me suis amusé à le faire, Danny DeVito qui essaie de faire exploser la tête de la Statue de la Liberté pour prendre une photographie, ça me semble un film assez intéressant. Et fondamentalement, un peu dans les délires absurdistes qu'on va voir dans la filmographie de Martin Brest. Mais le film duquel je voulais le plus parler, le film qui m'a vraiment émerveillé dans sa filmographie, c'est son premier long-métrage qui date de 1977, qui s'appelle « Hot Tomorrows ». Et « Hot Tomorrows », c'est un film, je n'exagère pas, un film extrêmement intéressant. Donc, Hot Tomorrows, c'est l'histoire de Michael et de Lewis. Michael, interprété par Ken Lerner, que vous reconnaîtrez possiblement de Running Man. En fait, on a fait une émission là-dessus il n'y a pas trop longtemps. Et Robocop 2, c'est un acteur qui a vraiment roulé sa bosse, qui a fait plein de trucs. Et Ray Sharkey, qui, lui, Lewis, a fait un peu moins de rôles. En fait, les deux, un peu des bums. Louis vient de New York. En fait, le film se passe à Hollywood. Et se passe le jour de la veille de Noël, où ses deux amis décident d'aller prendre une marche, un peu pour s'amuser, pour un peu prendre la ville, mais exorciser un peu les démons autour du personnage de Michael, qui est un aspirant écrivain et qui veut travailler sur sa première anthologie de nouvelles qui gravite autour de l'obsession de la mort de sa grande-tante et qui est un peu pris par cette morbidité-là. Donc, il doit sortir de sa maison, ou du moins Lewis essaie de le sortir de sa maison pour le sortir de cette obsession-là qu'il a avec la mort. Et les deux feront une sorte de déambulation, essentiellement, contrôlée dans le West Hollywood. Ils iront dans un bar, ensuite ils iront dans une morgue, et ainsi de suite, pour juste vivre une vie, mais tout en ayant une espèce de backdrop philosophique existentialiste très important. Et c'est drôle parce que, c'est pas un film qui a une grande reconnaissance. C'est un film qui est culte, si on veut être gentil avec. C'est fondamentalement un film très important pour le 7e antiquaire. Par quoi est-ce que c'est un peu dans la mission de prendre ces films-là et dire qu'ils existent? Parce que Hot Tomorrow's, fondamentalement, est connu par une poignée de cinéphiles, si ce n'est pas moins que ça. Ce n'est pas, une pincette de cinéphiles. On réduit de la poignée à la pincette. Donc peut-être quelques cinéphiles, juste un peu de sel de la cinéphilie qui se retrouvent à se rappeler de ce film-là. Ce qui fait en sorte que, le fait qu'il y a peu de souvenirs, il y a peu de mémoire par rapport à ce film-là, et ça porte un peu garant sur le fait qu'il n'y a pas de belle version du film. C'est pas un film qui a été restauré, c'est pas un film qui a une conservation assez incroyable. Je sais que Hot Dogs for Gauguin a été rajouté à la collection nationale, mais Hot Tomorrow's est un film qui existe sur la peau des dents. Ce n'est pas une espèce de transfert VHS qui fait que ce film-là continue en format numérique. Je ne sais pas trop comment est-ce que vous pourriez le trouver, mais il est très, très, très bootleg, si je peux dire. Ça, c'est pas un film super facile à mettre la main dessus. Puis qu'est-ce qui est drôle par rapport à ça, c'est que le film n'étant pas restauré, comme je vous dis, ayant peut-être vécu plusieurs transformations d'un support à un autre, a vraiment le feeling d'un document illicite. C'est ce genre de film-là que tu passes à quelqu'un en disant « Tiens, regarde ça, Hot Tomorrow, c'est un petit truc que tu n'entendras jamais parler. » Et la perte de qualité fait encore plus, est encore plus un signe manifestant de tout ça. Tu as vraiment l'impression d'avoir un truc que tu n'es pas supposé d'écouter. Puis c'est drôle parce que la photographie en noir et blanc, elle a été assurée par Jacques Etkin, qui était aussi à l'époque un étudiant au NYU. C'est lui qui a fait la direction photo pour Nightmare on Elm Street. Fait qu'il y a vraiment comme un travail sur le clair-obscur, évidemment, dans le film. Il y a énormément de surexposition des images. Puis c'est drôle parce que, suite à 40 ans de transfert, si on peut dire, pas beaucoup, il n'y a pas eu énormément de présentations publiques. Je ne sais pas d'où c'est qu'elle vient la copie qui circule actuellement. Mais on a comme un mélange esthétique très intéressant entre la perte de qualité et la volonté de faire dans le gros grain, de vraiment rendre le document assez corrompu ou étrange. Il y a un grand, grand, grand climat onirique dans Hot Tomorrow's, malgré que, comme je vous dis, c'est essentiellement juste une marche où ces deux hommes-là, en fait, Louis, qui est beaucoup plus un optimiste, un passionné, il est beaucoup plus vivant, si on peut dire, qui est un peu en train d'essayer de remonter le moral de Michael tout le long, puisque Michael doit, en faisant ce processus artistique d'écriture, d'historiette, doit se plonger un peu dans son obsession. Et, inévitablement, ça le ronge un peu de l'intérieur. Fait que t'as Louis à côté qui dit « Oh non, t'sais, allons boire », puis qui s'amuse, qui rencontre d'autres personnes, en fait... Je vous disais, il se retrouve dans un bar, il va rencontrer un personnage qui s'appelle Tony, qui est joué par Victor Argo, qui, lui, va être très content de le rencontrer parce que lui aussi, il vient de New York et ils apprennent qu'ils ont grandi à une rue de distance. Mais Tony est avec son ami Albrecht, qui est interprété par Hervé Villechaise, que vous rappelez, évidemment, comme le nain dans La croisière s'amuse. Hervé Villechaise joue un nain désastreux, donc un personnage misanthrope, désagréable. Il crie des bêtises tout le long. C'est un rôle extraordinaire. Il est tellement chaotique. Et là, tous ces hommes-là sont dans le bar. Il y en a un qui est dépressif, l'autre est souriant, l'autre essaie juste de contrôler son ami. Puis le dernier est un nain alcoolique et dévastateur. Et c'est pas pour rien, en fait, que je vous mentionne Hervé Villechaize, parce que, comme je vous mentionnais plus tôt, la réputation de Martin Brest au NYU a fait en sorte qu'il s'est retrouvé à avoir des personnes très importantes à travailler pour lui. Bon, Hervé Villechaize n'est peut-être pas une personne hyper importante, mais bon, avec le directeur photo, Jacques Atkin, et un autre caméo qui est quand même assez intéressant parce qu'il n'est pas tant annoncé dans le film. Comme je vous expliquais dans le synopsis, on se promène d'une place à une autre, on commence dans l'atelier d'écriture. Ensuite, on va dans la cuisine où les deux gars se mettent à parler. Ils vont écouter un film de Laurel et Hardy. Ça devient très important plus tard. Ensuite, ils se déplacent au bar et ensuite, ils vont à une morgue. Bien, il y a un moment où ils sont dans l'automobile et on entend une infopub hyper morbide, où il y a un commentateur qui dit « Regardez, c'est le temps des fêtes. » Mais là, je cite assez approximativement. « C'est le temps des fêtes. » Il y a plein de gens qui veulent participer à des festivités. Évidemment, il y a de l'alcool. Vous sociabilisez dans la manière la plus excessive possible. Mais il faut que vous fassiez attention tout de même, puisqu'il y a quand même des dangers liés à l'alcool et le volant. Donc, ne soyez pas des satanés imbéciles. N'allez pas prendre le volant si vous êtes chaud. Si vous êtes en surconsommation d'alcool, vous pouvez toujours passer ici à la morgue de West Hollywood, où on a du café noir en tout temps. Et on préfère vous voir vivant que mort ici. Bon, ça, c'est un des trucs qui est agréable du fait que j'ai pris un peu plus de temps pour la préparation. J'ai écouté Hot Tomorrow's 4 fois maintenant. Et à la première fois, bon, c'était un peu anodin, en fait, ce message-là, sauf, comme je vous dis, le lugubre du ton et du message. Mais à la deuxième occasion, c'était comme ça, quelque chose par rapport à ce nom-là. Et par rapport à le ton de voix, et autant que le grain de la copie, comme je vous disais, porte un peu au feeling bootleg, ben le son est aussi un peu le même. Là. On sait qu'il y a comme du grichement qui s'installe. Je n'étais pas nécessairement capable de reconnaître la voix. Jusqu'à ma troisième écoute, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est Orson Welles ». Et Orson Welles, encore, étant quelqu'un qui gravitait autour du NYU University à ce moment-là, s'est porté volontaire ou a décidé bénévolement, je ne sais pas trop exactement, de porter sa voix pour ce petit monologue lugubre, ce morbide-là qui est très, très important dans le film. Donc, comme je vous dis, c'est Martin Brest, à cette époque-là, était plein de promesses. Puis je pense qu'il y a énormément de gens qui croyaient à cette promesse-là. La trame sonore de Hot Tomorrow's est essentiellement assurée par Fats Waller. Donc, il y a énormément de solos de Fats Waller qui sont utilisés pendant le film. Et aussi les performances musicales de Danny et Mary Elfman, que vous connaissez évidemment dans le band Oingo Boingo. Puis c'est ici où je viens connecter aussi avec l'épisode qu'on a fait avec David, portant sur le film Forbidden Zone de 1982, qui est un film qui a été réalisé par Richard Elfman, le frère de Danny, et qui a aussi cette espèce de lenteur philosophique onirique assez particulière. Donc, pour les gens qui ont écouté notre émission sur Forbidden Zone et qui ont écouté ensuite le film, qui l'ont écouté avant, peu importe, faites aller regarder, vous êtes prêts, en fait, à regarder un truc comme Hot Tomorrow's, qui est clairement un précurseur, clairement une influence, bien, surtout du fait que les Elfman sont présents dans le film, donc ils ne peuvent pas vraiment faire abstraction de cet objet-là. Et on le voit très, très bien dans Forbidden Zone que on habite essentiellement dans le même monde. Puis c'est drôle parce que je pense qu'au fil des années, je vais me retrouver à me créer une trilogie informelle, Hot Tomorrow's, Forbidden Zone et Dark Backwards, qu'on a tous traités dans les derniers 2 ans. Donc, des films assez spéciaux. Bon, évidemment, Dark Backwards est celui qui va le plus loin dans son processus de déconstruction. Mais Hot Tomorrow's est vraiment le film le plus touchant et authentique et fondamental, je dirais. C'est ici où je me suis vraiment amusé à explorer profondément cette œuvre-là. Parce qu'à chaque fois que j'écoutais Hot Tomorrow, je me retrouvais à voir quelque chose d'autre que ça me tentait de voir. Je me disais, ah, c'est drôle, ça me fait penser à ça. Je vais aller réécouter ça. La meilleure manière que j'ai trouvée pour décrire ce film-là, c'est essentiellement de dire que c'est un mélange entre le film Clerks de Kevin Smith et Carnival of Souls, le film de Herc Harvey de 1962. Rapidement, pour Clerks, bon, vous connaissez, c'est le premier film de Kevin Smith. Ça se passe dans un dépanneur. Essentiellement, c'est un personnage apathique qui n'était pas supposé venir travailler et qui est pris derrière le purgatoire de son comptoir avec les clients qui passent et qui le rendent tranquillement totalement désabusé. De l'autre bord, Carnival of Souls, film de 1962, qui est un film extrêmement important pour l'histoire du cinéma d'horreur des États-Unis. C'est l'histoire d'une femme, en fait, qui est interprétée par Candice Hillegoss, qui, elle, pardonnez-moi, Hillegoss, il n'y a pas de R dans son nom. Au début du film, on a un accident d'automobile qui fait en sorte qu'on est un peu en suspension tout au long du récit. Cette femme-là se promènera à travers la ville, en fait, va reprendre ses fonctions en sortant de l'hôpital, ainsi de suite. Mais toujours hanté. Il y aura toujours comme des ghouls et des personnages, en fait, à peau blanche, pâteuses, laiteuses, qui le regarderont d'un coin de fenêtre. Et elle sera traquée par ces figures-là. Tout le long du film, elle la terrorisera. Elle fera comme des rêves, des cauchemars réveillés. Et il va avoir cette idée-là de femme hantée, essentiellement. Et bon, les interprétations sur Carnival of Souls sont multiples, mais c'est définitivement un des principaux films qui ont mis en scène ce trope-là, que j'appelle le film « Tu es mort et tu ne le sais pas encore ». Donc, cette idée-là d'avoir un climat qui nous pousse à vivre dans... C'est ça, c'est encore dans l'onirisme, c'est encore dans l'entremonde, si on peut dire. Et je vais revenir plus amplement sur l'entremonde tantôt. Mais des films, évidemment, qui ont été très influents pour moi et pour les gens de ma génération, Beetlejuice, qui au début, ben, Bill Paxton et Geena Davis ne savent pas nécessairement qu'ils sont morts. Donc, le processus de devenir fantôme. On pense aussi à Jacob's Ladder de Adrian Lyne, qui est un autre film dans cette série-là, là, où ce que on ne sait pas exactement de quel côté le personnage vacille. Est-ce qu'il est vivant dans le monde des morts? Est-ce qu'il est mort dans le monde des vivants? Et par extension, là, j'étire un peu sur la théorie, mais Flatliners de Joel Schumacher, qui lui aussi est un film avec des scientifiques qui se suicident, mais dans des circonstances contrôlées, pour être capable de voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord et revenir grâce à la science. Fait qu'il y a comme étrangement quelque chose de très intéressant. En fait, c'est une obsession vers les années 80, ben en fait, vers les années 80, pas mal, ces films-là de trépasser, mais de garder un pied dans la réalité vivante, ou ainsi de suite. Et à mon avis, Hot Tomorrow's en fait énormément partie. Puis c'est ça qui est intéressant à réécouter ce film-là à répétition, c'est que on suit un peu le processus du personnage. Le personnage de Michael est obsédé par la mort et nous, on devient un peu contaminé par ce feeling-là. Et sans trop m'époumoner sur la fin, vous voyez que si je suis en train de parler de ces films-là comme des films clairement influencés par Hot Tomorrow's, c'est qu'il y a quelque chose dans Hot Tomorrow's qui est proche de la déambulation philosophique. Et c'est pour ça que je dis que Clerks et Carnival of Souls fonctionnent très, très bien comme amalgame pour le décrire. Parce que il y a dans Hot Tomorrow's, à mon avis, la plus belle ligne de l'histoire du cinéma à ce qui a trait du projet de l'émission que vous êtes en train d'écouter. En fait, il y a un moment dans le film où les deux personnages, comme je vous disais, suite à probablement un coup de bang explosif, s'installent pour écouter un film de Laurel et Hardy. Et les deux sont assis, les deux meilleurs amis sont assis devant le film et rient avec les personnages qui sont aussi pris d'un fou rire. Et à ce moment-là, Michael, toujours dans son miasme morbide, se tourne et dit « That's what's great about old movies. You enter the land of the dead. » Et cette phrase-là va devenir comme une présence fantomatique tout le long du film. Ces gars-là marchent, mais existent entre les mondes. Puis le fait qu'ils partent d'un bar pour ensuite aller dans une morgue qui dit « Ne buvez pas, sinon vous allez potentiellement causer un accident qui va vous mener à votre perte », fait que je ne veux pas dire qu'il y a un moment bien précis dans le film où on passe du monde des vivants au monde des morts, mais le climat ou le feeling, l'obsession philosophique que Michael a à ce moment-là fait sans doute partie des causes d'un brouillement entre le monde des vivants et le monde des morts. Un autre truc qui m'est venu pendant que je suis en train d'écouter le film, c'est la bande dessinée Midnight Nation de J. Michael Straczynski, qui a été illustrée par Gary Frank. C'est un truc qui a été publié, je pense, chez Top Cow, si je me rappelle bien. Mais la bande dessinée elle-même n'est pas nécessairement si importante dans mon interprétation de Hot Tomorrows. Mais c'est la préface, en fait. Straczynski, dans la préface, expliquait que pour écrire ce livre-là, en fait, ou quand il a écrit ce livre-là, il prenait souvent des marches la nuit pour aller juste se vider la tête ou s'inspirer, et ainsi de suite. Et en prenant ces marches-là, il constatait que son quartier n'était pas le même la nuit qu'il était le jour. Et ça lui, ça a un peu forgé chez lui une obsession sur les multiples facettes, les multiples dimensions autour d'un même endroit. En quoi est-ce qu'un parc, un parc pour enfants où je vais, par exemple, avec les miens, n'a pas du tout la même ambiance, le même ton, ni la même émotion quand tu y vas à 1h du matin que quand tu y vas à 1h de l'après-midi. Puis Midnight Nation, dans sa préface, en fait une très belle illustration de cette situation-là. Comment est-ce qu'un lieu, peu importe, ben en fait, de comment un lieu peut être imprégné d'un sentiment ou même d'une résonance spirituelle différente d'un moment dans la journée que de l'autre. Donc, en quoi est-ce qu'un lieu précis géographique peut être aussi un carrefour pour plusieurs dimensions ou pleines spirituelles ou peu importe. Puis c'est là où il y a quelque chose de très intriguant dans Hot Tomorrows parce que, autant que ce n'est pas abordé de front, il y a définitivement un shift dimensionnel qui se fait dans le film. Puis en même temps, c'est pas nécessairement quelque chose qui est innovateur, mais en fait, c'est plutôt que c'est une obsession très importante de l'époque, puisque David Lynch va faire Eraserhead l'année d'après. Puis Eraserhead a aussi ce brouillement des lignes par rapport à est-ce qu'on est dans le monde du rêve, est-ce qu'on est dans le monde des morts. Bon, évidemment, la filmographie de Lynch va pas mal toujours graviter autour de ce brouillement des lignes-là. Mais Lynch aussi, dans Eraserhead, avait utilisé la trame sonore de Fats Waller. Donc, on a aussi cette filiation-là entre les deux œuvres qu'on ne sait pas exactement on est dans quel monde. Il y a une façon très pragmatique de voir Hot Tomorrows et de le voir essentiellement, comme je vous dis, une déambulation de deux amis qui sont une force de mort et l'autre une force de vie dans West Hollywood, la veille de Noël, où ils vont rencontrer toutes sortes de personnages colorés, ainsi de suite, et vivre toutes sortes de situations. Mais peut-être que c'est moi qui, à force d'écoute, a commencé à sentir comme si je suis en train de passer dans un autre monde. Mais je pense que Martin Brest a vraiment tenté d'illustrer la porosité entre le monde des morts et le monde des vivants. Et que qui et où, à quel moment? Et est-ce que la conversation est possible? Et comment est-ce qu'on transitionne? À quel moment? Il n'y a pas de moment précis où il y a une rupture. Ce n'est pas Jacob's Ladder, comme je vous dis. Mais il y a ce sentiment de cinéma comme les morts vivants. Puis il dit dans le film, le fait qu'on écoute des vieux films, c'est la possibilité d'aller vivre dans le monde des morts. Et parce que les personnes qui sont là sont mortes. Les images qui sont captées sont des images d'un autre temps. Mais quand tu es dans une salle de cinéma, tu es un peu... Ben en fait, l'effet escompté, c'est de vivre dans l'histoire. Donc, on est tous dans un même endroit, à des temps différents et à des dimensions différentes, si on peut dire. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a énormément de substance dans Hot Tomorrows par rapport à ça. L'autre truc, c'est la marche. Puis c'est évident, bon, ça m'est venu un peu plus tard, mais je pense notamment à bon, je suis quand même assez chanceux là, avec l'Anticard d'avoir des correspondances avec des auditeurs, mais je pensais à Colville, qui habite à Saint-Quentin. J'espère que je l'ai dit comme il faut, là, mais je dis toujours Saint-Quentin. Je pense pas que c'est comme ça que ça se prononce en France. Mais bref, Corentin dit toujours qu'il écoute les émissions pendant qu'il est en train de prendre marche dans le bois. Et je pensais évidemment à cette thématique-là de vivre dans deux espaces, tout en habitant le même lieu géographique. Puis je pensais à qu'est-ce que je suis en train de faire. Je pensais à faire cette émission-là. Et comment est-ce que moi, actuellement, je n'ai pas nécessairement l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, mais qu'il y a peut-être quelqu'un qui m'écoute. Et la personne qui m'écoute n'est pas du tout où moi je suis. Et moi, je ne suis pas du tout où la personne qui m'écoute m'écoute. Donc, il y a cette superposition-là des dimensions. Puis je pense que je l'avais déjà abordé, possiblement aussi malhabilement que je suis en train de le faire présentement, dans cette marche-là. La transition. Puis c'est là où Hot Tomorrow's est, à mon avis, plus important dans le fait qu'ils sont toujours en train de se déplacer. Si c'était un film qui était immobile, ben, ça dirait quelque chose de différent. En fait, Clerks étant un film très stagnant, ben, on dirait qu'il n'y a pas de transformation. Dans Hot Tomorrow's, parce qu'ils sont toujours en train de bouger, il y en a une transformation. Et c'est là que je trouvais ça drôle d'encourager les auditrices et les auditeurs de toujours marcher. Quand vous écoutez l'Anticast, s'il vous plaît, du mieux que vous pouvez, ou c'est votre truc... Ah non, en fait, je peux pas nécessairement dire ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui utilisent l'émission pour s'endormir. C'est la réalité de la chose. Mais essayez-le une fois de temps en temps, peut-être d'aller prendre une marche en écoutant, voir s'il y a vraiment un pouvoir de transformation. Puis toute cette idée-là de transformation dans la marche et vient se connecter aussi à Hot Tomorrow's, mais se connecte via... Encore, je suis très content de pouvoir préparer cette émission-là sur le long, parce que je pensais à La Divine Comédie, par exemple. T'sais, La Divine Comédie, c'est Virgile et le poète qui passent à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis, qui font une longue marche, essentiellement. Ils se promènent et shiftent dimensionnellement d'une sphère à une autre, si on peut dire. Puis cette longue marche-là, la Divine Comédie, ben, tu sais, il prend, il sort de chez lui, ensuite il dit, ben, regarde, on va marcher assez longtemps jusqu'à temps qu'on arrive en enfer. Puis il marche à travers l'enfer. Puis il dit, ben, si on est capable de marcher encore un petit bout, ben, on va peut-être se rendre au purgatoire, qu'est-ce que t'en dis? Puis là, il continue, puis il dit, on va se rendre au purgatoire. Puis là, en continuant, ben, si la marche est correcte, puis si t'es capable de soutenir le rythme, continuons et rendons-nous au paradis. Ils vont réussir à se rendre au paradis. Mais il y a cette idée-là d'une longue ligne droite qui est une longue, évidemment, pérégrination, mais qui nous amène dans un autre monde, qui nous amène dans une autre dimension. Et la Divine Comédie, c'est, à mon avis, l'éloge complète de cette marche-là qui nous mène à la fois nulle part, mais qui nous fait visiter toutes les dimensions possibles. Puis c'est un peu ce que Hot Tomorrow's fait aussi. On peut croire que le film est essentiellement la Divine Comédie, mais pour Fauché, parce qu'on a ces deux personnages-là qui représentent, comme je disais, deux pulsions et qui marchent, et qui marchent, et qui marchent, et qui visitent toutes. Mais en même temps, en visitant ces mondes-là, à la même manière que le poète dans Dante, ils n'appartiennent pas à ce monde-là. Il y a un autre personnage que je trouve vraiment intriguant, qui est interprété par George Memoli. En fait, sur Internet Movie Database, on le crédite seulement comme « Man in the Mortuary ». Puis c'est vrai qu'au Mortuary, on a l'embaumeur, en fait, qui s'appelle Donnie Daniels. Mais il y a aussi un autre homme qui est juste là. Puis c'est un gars qui, de ses propres dires, aime ça être à la morgue. Puis c'est juste, quand on parle de lui, ben ouais, il est toujours ici. Il trippe, qu'est-ce que je te dis. Puis c'est vraiment juste une présence qui, bon, évidemment, la morgue a cette connotation de mort, mais qui fait pas partie de ce monde-là. Et Michael a ce feeling-là aussi. Après, comme je vous disais, le poète dans La Divine Comédie, il ne peut pas faire partie de la mort, il ne peut pas tomber, il ne peut pas mourir. Puisque s'il meurt, il ne pourra plus explorer ces lieux-là. Fait qu'il doit être absolument vivant tout le long. Puis ça complexifie le moment, comme je vous dis, où il transitionne, dans quel monde il existe. Parce que s'il était mort, il deviendrait une présence de la mort comme toutes les autres. Il ne pourrait plus vraiment explorer. Donc, il doit fondamentalement toujours rester vivant, comme le poète reste toujours vivant dans La Divine Comédie. Il y a vraiment beaucoup de trucs, je trouve, qui sont... Martin Brest était assez jeune quand il a fait ce film-là. C'est très bien pensé. C'est extrêmement bien réfléchi, tant visuellement que narrativement. Le récit est fabuleusement bien construit. C'est un film de 1h15. C'est pas un grand investissement pour les gens qui voudraient vivre un peu ce dépaysement-là. Mais je vous dirais, pour une œuvre de jeunesse, c'est un film foutrement complet. Puis complet à un point tel que tu te dis, wow, c'est grande maturité. Puis il aurait pu faire quelque chose. En fait, ce film-là pourrait sans doute être culte et le serait dans l'optique que l'on aurait développé une catégorie, je vous dirais peut-être, de film de Cassavetes spirituel slacker. Encore, ça vient glisser le Clerks meets Carnival of Souls. Mais Shadows mélangé avec l'insoutenable légèreté de l'être, si je pourrais vous dire. Ces personnes-là qui sont obsédés à la fois un pour la vie et l'autre par la mort, et que leur, leur état mental, leur disposition spirituelle va déterminer la suite des choses. Puis ça, en fait, ça devient, à mon avis, une des pièces les plus importantes par rapport au film, c'est comment est-ce que tu te sens et qu'est-ce que tu apportes à une situation qui va déterminer un peu le découlement, le dénouement de cette situation-là. C'est un peu comme l'observeur observé. C'est, évidemment, ça peut s'en glisser, ça peut rapidement glisser vers la pensée magique et la pensée positive, mais si on est continuellement en train de réfléchir, bon, le meilleur exemple, c'est le chef 23 de Robert Anton Wilson qui a repris dans Cosmic Trigger, en fait. T'sais, cette idée-là que, bon, il y a eu un film de Joel Schumacher avec Jim Carrey là-dessus, si on se met à chercher les 23, on va en voir partout. Ben, c'est un peu ça que Robert Anton Wilson disait. Il n'y a pas de conspiration autour du chef 23. C'est juste que tu te mets dans la disposition mentale de chercher 23. Donc, à chaque fois qu'il va en avoir un, tu vas le voir. Et tu ne cherches pas 22, tu ne cherches pas 24. Fait que les 22 et les 24, tu vas un peu les oublier. Mais le 23 va devenir obsessionnel et omniprésent parce que tu le cherches. Puis c'est ça qui est en train de se passer dans Hot Tomorrow. Je pense que le crux philosophique est là. Si l'on cherche la mort, on va la trouver partout. Si on cherche la vie, on va la trouver partout. Mais c'est la même chose par rapport à comment on vit notre existence. Si on cherche la défaite, on va la trouver. Si on cherche la réussite, on va la trouver. C'est là où ce que je vous dis, c'est peut-être la pensée magique. Mais à mon avis, ça fonctionne très, très bien avec le film. On peut regarder le climat mental de ces personnages-là et dire, bien, inévitablement que ça va se passer de cette manière-là. Tu es prédisposé à recevoir ces éléments-là. Et c'est rare qu'un film donne autant de place au développement des personnages parce que c'est le développement des personnages qui a une influence sur la structure narrative. Je n'ai pas d'autre exemple de film que le contexte du film et le déroulement du film dépend autant de l'univers mental du personnage. Je trouve ça très intéressant. C'est très, bon, évidemment, romantique, tu sais, cette idée-là que quand on est triste, il pleut. Mais là, ça y va vraiment du point de vue métaphysique, philosophique, c'est beaucoup plus grandiloquent dans Hot Tomorrows. Et tout ça fonctionne, en fait, la théorie fonctionne aussi assez bien avec des trucs comme, je suis allé regarder des interviews qui ont été faites par rapport à Midnight Run, qui est un autre film de Martin Brest, celui-ci avec Robert De Niro et Charles Grodin. Il y a aussi Yaphet Kotto, qui est dans Midnight Run, et il dit, je vous cite, en parlant de Midnight Run, "That was another difficult shoot. De Niro is very spontaneous, and it always helps to work with an artist like that. But Marty Brest, he shot so many takes of the scene that I lost all joy in doing the film. It became hard and tedious work. Then he stopped eating during the shoot and became thinner and thinner each day until he looked like a ghost behind the camera. When I met Marty at Universal Studios with De Niro, he looked healthy and strong. But as filming went on, he began to turn into someone you'd see in Dachau. It was weird. I got sick, and for the whole of the film, I had a fever and was under the weather for most of it. I was shocked when it came off so funny. It sure wasn't funny making it." Pis ça, cette idée-là d'espace mental, c'est quoi les prédispositions? Comment est-ce que Marty Brest vivait le film? Bon, là, on parle de Midnight Run, mais l'idée d'une transformation tranquille en fantôme est pour moi très importante. Et je pourrais totalement voir ce type de comportement-là émerger dans la création d'un film comme Hot Tomorrows. L'idée qu'il doit lui-même passer à travers un processus de transformation pour correctement illustrer cette transformation-là du personnage. Bon, j'interprète peut-être trop, mais à mon avis, ça fait... Cette surenchère d'interprétation rajoute beaucoup de beauté au film. Il y a quelque chose de très mythologique, spirituel. Il y a aussi l'idée que Alberic, le personnage de Hervé Villechaize, est le nom qu'on donne au nain dans la trilogie Nibelungen de Wagner. Donc, cette idée d'un nain destructeur. On va aussi chercher des rappels à la mythologie pour être capable de glisser une substance dans ce conte philosophique qui est Hot Tomorrows. Un autre truc que je suis extrêmement content d'avoir pu faire par rapport à à cette émission sur Martin Brest. Excusez, Marty Brest. Donc, j'ai eu l'occasion d'écouter Going in Style, qui sont faits de 1979, qui piquait ma curiosité, mais que je n'étais pas 100% certain que j'aurais le temps d'écouter à temps. Puis comme je vous dis, il y a eu énormément de modules qui se sont rajoutés à l'émission. J'ai réécouté Carnival of Souls, j'ai relu Midnight Nation. Bon, j'ai pas lu La Divine Comédie, inquiétez-vous pas, mais je suis vraiment allé chercher dans tout ce que j'étais capable de trouver autour de ce film et de creuser dans ces instincts-là, de ces petits hunches-là. Puis Going in Style, hier, j'avais l'opportunité, je me suis dit, fuck it, je m'assois. Puisque c'est un film qui m'enseigne George Burns, Art Carney et Lee Strasberg. Puis bon, pour les gens qui ne seraient pas familiers avec ces noms-là, en fait, moi, je connais Lee Strasberg à cause de Marc Maron dans WTF. Marc Maron parle beaucoup, beaucoup de Lee Strasberg. Puisque Strasberg avait une école de jeu et a été le prof de acting pour énormément de personnes. George Burns, en fait, moi, c'est une figure de mon enfance. Je me rappellerai toujours de George Burns avec son gros cigare et sa petitesse. En fait, George Burns fait partie de cette troupe-là, en fait, informelle, qu'on appelle la Borscht Belt. Puis bon, je dis troupe, mais c'est pas nécessairement ça. La Borscht Belt, c'est un style humoristique qui est, bon, d'abord et avant tout, un truc qui provient des Juifs Askenage, mais on regroupe dans le Borscht Belt des personnes comme Jackie Mason, comme Mel Brooks, Rodney Dangerfield en fait partie, Don Rickles en fait partie, Carl Reiner, le père de Rob Reiner, en fait aussi partie, Lenny Bruce, Mel Blanc, des Looney Tunes, Woody Allen, Joan Rivers, Phyllis Diller, Jerry Lewis, Lanny Kazan, Phil Silvers, Benny Breslin, Estelle Getty. C'est tous des humoristes. Sid Caesar, je pense que je ne l'ai pas dit. Buddy Hackett, Don Rickles. Vraiment, ces humoristes juifs-là qui ont eu une carrière extrêmement importante et extrêmement influente, qu'on essaie d'hommager du mieux qu'on peut, mais que, bon, malheureusement, ça ne se fait pas toujours de la meilleure des manières. George Burns est une des grandes figures de ce Borscht Belt-là, dont je mentionne. Art Carney, bon, un acteur de télé extrêmement important. Elie Strasberg forme ce trio dans Going in Style. C'est en fait trois monsieur âgés, ils sont tous près de 70 ans quand ils sont en train de tourner le film, qui décident du jour au lendemain, en fait, ils sont assis sur un banc de parc, puis ils disent « Il nous reste plus grand temps à vivre, donc pourquoi est-ce qu'on ferait pas le tout pour le tout et pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de voler une banque? » Et le film devient cette espèce d'entreprise de ces trois hommes-là qui disent « Volons une banque pour le plaisir, pour voir qu'est-ce que ça peut nous procurer, pour assurer nos beaux jours, pour ce qui en reste, essentiellement. C'est pas un film qui a une immense réputation, mais c'est un film avec lequel je suis tombé avec autant d'intensité en amour avec autant d'intensité que Hot Tomorrows, même que, bon, ce film-là a eu une meilleure carrière, si on peut dire, une meilleure reconnaissance, une meilleure reconnaissance publique. Donc, il est beaucoup plus facilement trouvable. De ma vie, et ça, c'est pas peu dire, j'ai quand même assez parlé souvent à l'émission de cette performance dans Network qui a mérité un Oscar de meilleure interprétation, une performance de 7 minutes, qui est quand même très, 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 très impressionnante. Mais je n'ai jamais vu un monologue aussi impressionnant que qu'est-ce que Lee Strasberg nous performe. C'est le monologue le plus douloureux que j'ai vu de ma vie. C'est incroyable comment que l'émotion, l'émotivité... Puis je ne sais pas si c'est dans les derniers films que Lee Strasberg a fait, mais c'est une déclaration incroyable sur le métier d'acteur. C'est une scène très facile. Ce n'est pas une scène facile du tout. C'est une scène très simple à décrire. Le personnage se réveille le matin. Il est un peu pas dans son assiette. Donc... Art Carney va le voir, puis il lui dit comment ça va, puis il dit je sais pas, man, j'ai de la misère à dormir. Hier soir, je pensais à la dernière fois que j'ai donné la fessée à mon fils. Et il raconte l'histoire de comment est-ce qu'il est rentré du travail un soir et que sa femme l'attendait. Il a dit que leur fils avait pas été gentil, qu'il a fait quelque chose de pas correct. Et là, il a eu à aller lui inculquer une punition corporelle, donc il est allé lui mettre la fessée. Puis son fils était continuellement dans la, la riposte, en fait. Il disait, j'ai rien fait, mais il lui donnait la fessée. Et il a frappé sur le derrière jusqu'à temps que son fils capitule. Et que son fils abandonne, puis fasse, mais oui, c'est moi qui l'ai fait. Et là, l'émotion l'embarque parce qu'il explique que c'est dans cette capitulation, il y a quelque chose qui est brisé dans la relation entre lui et son fils. Et que, malheureusement, the kid didn't last long. He just went until he was 18. Donc, il y a comme un 6 ans où le père a eu à vivre avec cette idée-là qu'il y a une tape sur les fesses qui a donné de trop, puis que ça a brisé la relation de confiance entre le père et fils, puis que pendant 6 ans, il n'y a eu aucune manière de reconstruire les ponts. Et malheureusement, son fils est mort trop jeune, donc il n'a jamais pu penser cette blessure-là. Je vous le dis, je ne peux pas correctement honorer cette scène-là. C'est une scène dévastatrice. C'est un monologue incroyable. Et ça arrive dans la première demi-heure du film. Je ne peux pas vous mentionner à quel point est-ce que c'est un film époustouflant, qui parle vraiment de l'inévitabilité de la mort et des choses que l'on doit faire avant d'y arriver. Parce qu'eux autres, ils décident, comme ça, d'un coup de tête, de faire « et on n'a plus rien à perdre, volons une banque ». Mais il y a énormément de choses qui découlent de cette décision-là, surtout par rapport à l'âge avancé des personnages. C'est un film qui est très difficilement descriptible, mais qui est à conseiller immensément. Allez voir Going in Style. Bon, mon objectif avec l'émission, c'est fondamentalement de faire écouter Hot Tomorrows. Trouvez-le, écoutez-le. C'est vraiment un film. C'est une perle rare dans le cinéma américain. Going in Style, c'est un truc qui ne se compare pas. C'est, à mon avis, un film que l'on ne pourrait plus faire actuellement. Bon, c'est aussi relié au fait que les trois interprètes sont des légendes. Donc, c'est des personnes qui, pas qui n'ont rien à prouver, mais qui sont au sommet de leur forme, qui ont une l'art comme science infuse, fait qu'ils réussissent quelque chose d'extraordinaire tout au long du film et qui ne fonctionne pas à notre époque. Puis c'est drôle parce que j'ai remarqué qu'en 2017, Zach Braff a fait un remake avec Morgan Freeman, Michael Caine et Alan Arkin. C'est drôle parce que quand j'écoutais Going in Style, je pensais à Maiden's Heist, qui est avec Christopher Walken, William H. Macy et aussi Morgan Freeman. Puis c'est drôle, il y a aussi un autre film de 2012 réalisé par Fisher Stevens, qui est une comédie criminelle encore avec des personnes âgées, avec Al Pacino, Christopher Walken et Alan Arkin. Fait qu'essentiellement, Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Al Pacino et Christopher Walken sont à eux cinq responsables de trois films de vieux monsieur qui décident d'entreprendre quelque chose comme ça, quelque chose d'ambitieux et de fou, mais que il ne... Bon, je ne veux pas faire des statements de qualité, mais je ne crois pas du tout que ça peut arriver à la cheville, ces trois films-là, de Going in Style, qui avait ces trois légendes-là et qui fait un film de 1h40 extrêmement émotif et compréhensif. Et c'est une déclaration sur l'âge et sur le regret. Et c'est un film assez extraordinaire. Donc, Martin Brest, pour conclure, il y a une grande tragédie dans ce qu'a vécu Martin Brest, parce qu'il a fait une erreur de parcours, mais en fait, une grande erreur de parcours, une erreur de parcours que personne ne lui pardonnera, mais qui, historiquement, va causer beaucoup plus de tort à l'histoire du cinéma américain qu'à n'importe quoi d'autre, en fait. Parce que Scent of a Woman, puis Meet Joe Black, Beverly Hills Cop, puis Midnight Run, et Hot Tomorrows, et Going in Style, sont des films qui ont quand même marqué le cinéma américain, ont une influence, que ce soit sur les réalisateurs ou sur le public. Il y a énormément de copies de Scent of a Woman, il y a énormément de copies de Meet Joe Black qui existent. Mais Martin Brest, à cause de son trouble avec Gigli, en fait, n'existe plus, n'est plus dans les mémoires. Il existe encore, il est bien vivant, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Mais il a dû divorcer de ce monde dans lequel il a créé tant de belles œuvres. Et en s'éclipsant de cette manière-là, a mis en péril a mis en péril son legs. C'est là où moi, j'ai une profonde tristesse avec le fait de gigler. Bon, c'est plate que ce soit un film qui fonctionne pas, ça arrive, mais que ce soit un désastre au niveau humain tellement immense que Martin Brest disparaît et du coup fait un peu disparaître sa carrière, ses films, il sera éternellement, bon, j'espère pas. Puis bon, en faisant cette émission-là, je suis un peu en train de faire un contre-sort par rapport à « Ah oui, c'est le gars qui a fait Geekly. » Non, c'est le gars qui a fait Hot Tomorrow, c'est le gars qui a fait Going in Style. C'est un réalisateur incroyable qui était plein de promesses dans sa jeunesse, qui a pris cette promesse-là et qui a fait des carrières. Il a fait Eddie Murphy avec Beverly Hills Cop. Il a réussi à faire un film avec Robert De Niro. De Niro montrait autre chose que la personnalité qui avait été très bien instaurée avec les films de gangsters. Brest est très important pour la filmographie américaine moderne, mais malheureusement, on s'en rappellera pas. Et c'est d'une grande tristesse, à mon avis, qu'une seule œuvre, un désastre de marketing fasse en sorte qu'on efface un peu. C'est pas comme s'il avait fait quelque chose d'amoral. Il a fait un très mauvais film qui a fait perdre beaucoup d'argent à un studio. Pis ça veut pas dire qu'on devrait arrêter de voir ses films. Pis ça veut d'autant plus dire qu'il ne faut pas ignorer ses premiers films et de ne pas vouloir se reconnecter à ce moment où il était plein de promesses et qu'il faisait des films denses et incroyables. Donc, je répète, Hot Tomorrows, 1977, et Going in Style, 1979, du réalisateur Martin Brest. Allez voir ça. Merci énormément pour l'écoute. Je suis très satisfait de cette deuxième tentative de l'émission. Merci énormément d'avoir écouté l'émission. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir faire ça, de sortir ça, de correctement exulter mon enthousiasme pour la carrière de Martin Brest, en espérant que ça vous a donné le goût d'écouter les films. Fait que passez une très belle écoute, une belle semaine tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Bye! I put a spell on you.
Votre attention à tous. Aussitôt que le sas sera verrouillé, silence. Jacques et Yuna, si quelque chose cloche, prévenez-moi par télépathie.
I want you to get up right now and go to the window, open it and stick your head out and yell, I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore.
Comme ça, Money, tu penses que ton stuff c'est la grosse affaire?
Laisse-moi te dire une chose, qu'avec ce stuff-là, les petits dealers sont mieux de prendre leur trou.
C'est cet inconscient-là qui est le plus dangereux.
Nice shooting, sir. What's your name?
Murphy.
Je suis un porc! Je suis inordure! Ah! Je suis pourri! Je suis lépreux! Accordez-moi! Ne partez pas!
I'll put a spell on you!